Montréal. Mon nom est Patrick Tellen, je serai l'animateur et le producteur de cet épisode numéro 9 de Poutine à deux. Donc, comme vous pouvez vous douter, ce soir, nous allons, oui, encore une fois, manger de la poutine avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, cette fois-ci, est Marc-André Caron, qui est directeur de jeu chez Mega Zebra à Montréal. Marc-André, dans son passé, a travaillé sur quelques projets que vous connaissez peut-être. Il a d'abord été responsable des mondes ouverts sur les jeux Far Cry 2 et Far Cry 3. Ensuite, en deuxième moitié de carrière, il a pris un tournant vers le jeu mobile où est-ce qu'il a adapté des franchises à succès pour des plateformes mobiles chez eMobile. Et dans ce cas-là, nous pouvons parler notamment de Tetris sur iOS. Pour ceux qui sont au courant un peu de ma situation professionnelle, certains d'entre vous savent que je travaille chez Mega Zebra. J'ai dit que Marc-André travaille chez Mega Zebra. Vous pouvez vous douter que oui, nous sommes bel et bien collègues. Donc justement, cette semaine, ça m'a tenté de faire un spécial et tout simplement de faire l'exercice d'aller m'asseoir avec un collègue de travail et tenter de trouver d'autres sujets de discussion autres que ceux que nous avons dans notre 40 heures semaine au studio. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pris une démarche vieille comme le monde. J'ai tout simplement regardé qu'est-ce qui est unique du côté de Marc-André en tant que de design de jeu. Et bon, de son côté, il y a deux passions qui sont vraiment brûlantes en lui. C'est d'abord tout ce qui est systémique. C'est vraiment une passion pour Marc-André. Comme je l'ai mentionné, il a déjà travaillé sur Far Cry, donc on voit déjà d'où est-ce que ça vient. Et très probablement, quand nous allons parler de ses bases de joueurs, nous risquons de découvrir que Marc-André aimait beaucoup les jeux systémiques. Sinon, l'autre sujet qui le passionne vraiment, c'est tout ce qui est processus de création, processus de production, mais d'une perspective de designer. Donc, à chaque fois qu'on parle avec lui au travail, c'est vraiment un gars qui veut mettre ça en place, qui veut améliorer les processus en question. Donc, définitivement, ça me tente d'en parler parce que, soyons honnêtes, souvent, c'est pas quelque chose de courant comme sujet de discussion avec un designer. Des designers préfèrent parler de mécanique, de progression de la difficulté, de narration, mais très rarement de méthode de création. Donc, je crois que l'opportunité est là, donc je vais la saisir. Aussi, petite note, j'ai une annonce très spéciale à faire à propos de Poutine à deux à la fin de cet épisode-là. Donc, assurez-vous de rester avec nous après l'entrevue. Sur ce, très étonnamment, je dois vous avouer que je commence à avoir vraiment faim. Je vais prendre mon matériel audio, le mettre dans un sac et foncer vers le métro. Donc oui, nous voilà déjà rendus au Hippie Poutine, encore une fois, sur Saint-Denis à Montréal. Et j'ai en face de moi, ma foi, grande coïncidence, Marc-André Caron. Est-ce que ça va bien?
Ça va bien, merci, et toi?
Très bien, très bien. Comment vis-tu avec l'idée de vivre ton jour de triche aujourd'hui avec moi en mangeant la poutine?
Ben écoute, vaut mieux associer les plaisirs que les séparer.
Très belle perspective sur la vie. Prenez des notes, les enfants. Bon, comment on fait d'habitude, normalement, quand on reçoit quelqu'un issu de l'industrie du jeu, on aime bien parler de la base. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'industrie du jeu vidéo? Donc, j'extrapole que tu as joué à des jeux vidéo étant jeune. Si oui, quelles ont été vraiment tes grandes inspirations, pourrait-on dire?
Je vais trahir mon âge. J'ai commencé sur un VIC-20. J'ai gradué au Commodore 64.
Oh là 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 là!
Sur le Commodore 64, j'ai un vague souvenir d'un excellent jeu, G.I. Joe.
Oh.
Où est-ce que c'était des arénas où tu fights contre des NPC, genre autour d'un char. C'était bien, bien simple. Mais oui, il y a eu ça. Ah oui, j'ai aussi eu un Jiminy, qui était un clone d'Atari 2600. Pourquoi ils ont eu le droit de faire un clone? J'ai aucune idée, j'avais genre 10 ans. Là. Mais oui, j'ai eu Jiminy. m'a été confisqué quand j'ai eu des moins bonnes notes au secondaire.
Oh là là!
Mais j'ai trouvé la cachette. Fait que l'après-midi, je le rebranchais puis je le remettais dans la cachette avant que la famille réplique à la maison. J'ai joué, mais surtout les vraies piqûres que j'ai eues, ça a été en partie des parties avec des amis où est-ce qu'on jouait à des jeux sport toute la soirée, genre, ou des jeux de course. Puis des jeux PC, les années 90, Civilization, SimCity, The Sims, le premier, j'ai quand même beaucoup joué. Voilà, ces jeux-là de stratégie, simulation, ça m'a beaucoup inspiré. C'était ça qui me faisait jouer le plus. Il y avait plein de jeux, les Quake et compagnie, qui sortaient à l'époque, mais c'était genre, ouais, moi, c'était Civilization, SimCity qui me gardait accroché.
Justement, considérant ta préférence pour le système X, j'imagine, ça vient un peu de là, ton appréciation des jeux bac à sable et ainsi de suite.
En effet, je suis fier de dire que j'étais un early adopter de Minecraft.
Oh là là!
À l'époque où c'était vraiment basic. Je pense que il y a beaucoup de jeux avec des histoires vraiment fascinantes, faites par des gens professionnels, talentueux, mais l'histoire qui compte le plus, c'est l'histoire du joueur. C'est l'histoire que le joueur fabrique. Je pense, mon expérience, c'est que les gens qui se racontent des séances de jeu, là, des fois, ils vont raconter, oui, l'histoire, là, quand la fille meurt dans Final Fantasy VII, puis des affaires de même. Mais ce que j'entends le plus, c'est, hey, cette fois-là, il me restait 3 hit points, là, j'ai trouvé du cover, là, c'était dur de healer. Il n'y a rien de tout ça qui était écrit par des designers narratifs ou des scénaristes venus droit de Hollywood. C'est... Les jeux sont capables de faire émerger des histoires fascinantes. Pour ça aussi, je dis le jeu avec la meilleure histoire, c'est FIFA.
Non, mais effectivement, en termes de drame aussi, le sport, ça le cachera pas. Souvent, c'est un environnement très fertile pour ça. Là.
Oui, en effet. Il y a le drame. Et puis, il y a le fait aussi que... tout ça, c'est des jeux où est-ce que les joueurs sont vraiment plus en contrôle de leur destin. T'sais, que ce soit Fallout, que ce soit SimCity, que ce soit World of Warcraft, c'est des jeux où tu décides de ce que tu fais. Tu décides, tu peux te donner des objectifs à court, moyen, long terme. Puis personnellement, je pense que j'aime invariablement les jeux qui sont à propos du joueur, plus qu'à propos du monde, plus qu'à propos de l'histoire ou d'un personnage principal.
T'es-tu essayé ici et là des Metal Gear Solid de ce monde, des Final Fantasy, des jeux de Telltale très narratifs? Puis si oui, quelle a été ta réaction face à ça? Est-ce que t'as eu un blocage ou t'es quand même capable d'apprécier? Puis...
Je les apprécie, mais je finis rarement ces jeux-là.
Okay.
Le jeu à histoire qui m'a le plus marqué, ça reste Half-Life 2.
Quand même.
Ça remonte. J'ai essayé Bioshock 1 et 3. Puis les deux, je me suis rendu à quelque part au milieu de l'histoire, mais, tu sais, je sais pas, il y a un autre jeu qui me tentait, puis là, tu prends une pause, puis finalement, tu y reviens jamais. Je sais pas, tu sais, c'est une question de goût personnel, là, tu sais. Il y a beaucoup de monde, surtout des créatifs dans le jeu vidéo, qui sont un peu absolutistes dans leur description de ce qui est désirable ou pas dans un jeu. C'est pas mon cas, mais c'est ce qui me parle, puis j'essaie de bâtir là-dessus dans mon travail aussi, puis j'essaie de bâtir des mécaniques de jeu qui gravitent autour du joueur, parce que je me dis, c'est une motivation que je connais, puis voilà, j'ai envie de la transmettre.
Très bien. Alors, on va parler un peu de ton cheminement de vie avant le jeu vidéo. Qu'est-ce qui me saute aux yeux, c'est que t'as pas nécessairement commencé tout de suite en jeu vidéo. Pourrais-tu parler de ça, justement?
Oui, puis même... Il a fallu que je travaille dans les jeux avant de décider que je voulais travailler dans les jeux.
C'est assez inusité, là.
Oui, bon. Fait qu'on on va remonter loin. J'ai commencé mes études supérieures en faisant un DEC en sciences humaines.
Oh là là!
C'est un domaine intéressant, mais j'avais vraiment pas envie d'être prof. Fait que ma motivation était moyenne et les notes le reflétaient. après coup, j'ai décidé de tout resetter, de recommencer à zéro. Puis là, j'ai fait un deck en technologie de l'architecture. Parce que je me disais, architecture, ça, c'est intéressant. Un métier où tu fabriques quelque chose, ça sonne vraiment cool. Mais comme j'avais pas le parcours pour entrer en architecture, ni les notes d'ailleurs, j'ai recommencé le deck. Là, ça allait beaucoup mieux. Tu sais qu'à partir du moment où tu es motivé, là, les efforts seront nettement moins douloureux.
Très étonnamment.
J'ai travaillé là-dedans pendant un bout de temps, notamment parce que j'avais découvert l'infographie 3D qui en était à ses premiers balbutiements. Mais je me débrouillais avec ça. Et puis rapidement, j'avais du boulot pour faire des perspectives, des rendus 3D. Les architectes me donnaient leurs plans, puis je les reproduisais mais, au millimètre près, mais en 3D. Et puis là, après ça, j'ai eu une job de pigiste comme ça. Mais les logiciels que j'utilisais pouvaient aussi parfois servir à faire de l'animation 3D. Fait que, encore jeune, pas marié, pas d'enfant, je passais mes soirées à tripoter 3D Studio Max pour voir qu'est-ce que je pouvais faire de le fun avec mes outils de travail. Puis un jour, j'avais un petit démo reel, j'ai envoyé à Ubisoft, puis j'ai eu un boulot comme animateur de personnages.
Quand même.
Puis c'était une époque où je jouais au jeu occasionnellement. Mais presque instantanément, en commençant à travailler dans les jeux, j'ai eu la piqûre. Je trouvais que le défi de développer des visuels qui ont un but autre que juste être beau, qui ont un but autre que juste raconter un événement, tu sais, c'est... Il faut que le rythme soit adapté aux joueurs, à ses actions. Tout de suite, c'est un défi qui m'a passionné. Puis c'est là que je me suis mis à jouer à beaucoup plus de jeux pour comprendre les références. Puis voilà, j'ai jamais changé d'idée.
Permets-moi une certaine généralisation. Ce type de réflexion-là, est-ce que c'était assez courant parmi les autres artistes avec lesquels tu travailles? Parce que, par expérience, il y a peut-être un artiste sur deux qui est capable de penser de même. Souvent, on s'arrête encore, malheureusement. Est-ce que c'est beau ou est-ce que ce n'est pas?
En effet, il y a une démarcation entre deux sortes d'artistes. Il y a les artistes qui sont contents de travailler dans un jeu.
Mm-hmm.
Puis il y a les artistes qui, dans le fond, seraient peut-être plus heureux chez Pixar.
OK.
Puis, des fois, c'est tentant. Je l'ai vécu en tant qu'animateur de personnages. Tu sais, faire des animations avec des longues périodes de préparation super cinématiques, tu sais, c'est satisfaisant. Mais le joueur, quand il tape sur le bouton, là, il veut que l'attaque se passe maintenant.
Mm-hmm.
Fait que, pour moi, c'était pas un problème. Pour moi, je voyais ça comme une contrainte, le fun. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont pas la piqûre.
Mm-hmm.
C'est avec eux, c'est plus une recherche esthétique pour eux. Puis, ben, peut-être, ouais, ces gens-là, ils vont peut-être pas toffer 10 ans dans un jeu vidéo, tu sais.
Non, c'est ça. Ils vont pas se rendre service, ils vont peut-être être malheureux. Parce que vient, tu sais, je veux dire, on peut nommer des références d'Ubisoft Montréal. Un Prince of Persia, c'était vraiment des animations très délibérées, très... inflexible. Je veux dire, ça vient un problème, le jeu, là, c'est un jeu d'action. Comme tu dis, si tu donnes un coup d'épée, il faut que ça réponde rapidement. Il faut pas t'avoir une grande anticipation pour que ça soit beau, là.
Ouais. Puis t'as aussi, t'as des artistes qui aimeraient mieux travailler sur des cinématiques. Mm-hmm. Ça arrive. Puis encore là, je dis, c'est pas... Il y en a pas un qui est meilleur. Bon, il y en a un qui est plus adapté au médium. Puis... ceux-là vont probablement trouver plus de satisfaction puis être plus motivés, donc avoir une carrière plus satisfaisante. C'est sûr, si tu travailles sur quelque chose que t'aimes juste à moitié, c'est plus dur.
Mm-hmm, définitivement. Mais bon, t'es designer maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre le jeune Marc-André Caron, artiste, et le designer d'expérience de maintenant?
Ben, en ayant plus de responsabilités comme artiste, je travaillais de plus en plus avec les producers, les designers, pour finalement pour être sûr que la réalisation artistique reflète les valeurs du jeu. Puis je trouvais ça super excitant. Puis en fait, je pense que c'est quelque chose qui pompait mes connaissances en sciences humaines, qui était resté là en servant à rien pendant des années. Toutes des questions de psychologie, de sociologie, de sciences économiques, ça revenait. Tu sais, des fois, des gens m'expliquaient, ah, tu sais, moi, j'ai un système de récompense. Puis là, j'étais comme, hey, c'est du conditionnement répondant. Je comprends que ça marche. Puis, fait que j'ai été naturellement attiré vers ça. Fait que mon parcours est passé par une longue période de level design qui était un heureux mélange de ce que je savais faire en tant qu'artiste, en tant que gars qui avait étudié l'architecture et en tant que gars intéressé au game design. Oui, pendant de longues années, j'ai fait ça. C'est à ce moment-là aussi que j'ai travaillé sur les deux Far Cry que j'ai fait parce que ça, voilà, ça, c'est en plus des jeux open world, je pense, en raison de plus, ça venait chercher tout ce que j'aimais dans les jeux, puis tout ce que j'aimais dans la fabrication des jeux aussi. C'est la totale.
Mm-hmm.
Puis ensuite, je suis passé plus au game design pur.
OK. Mais là, justement, éventuellement, bon, t'as fait un... T'as changé vers le jeu de console pour le jeu mobile. Qu'est-ce qui a été derrière cette attraction-là? Parce que normalement, la trajectoire est inversée. Souvent, on a tendance à croire dans l'industrie du jeu. Mais là, tu sais, tu parles d'une grosse production, c'était le Far Cry. Là, tu dis non, OK, finalement, je vais faire des petits jeux de téléphone.
C'est des tellement grosses équipes dans le AAA. Personnellement, j'aime encore jouer des jeux de ce genre-là, des GTA, les Witcher... C'est super le fun, mais c'est des productions de 400 personnes, puis t'as l'impression un peu d'être un atome dans une masse. C'est difficile de se sentir... je veux pas dire important, mais juste significatif.
Mm-hmm.
Puis il y a aussi le fait que quand tu réunis 400 personnes, c'est sûr qu'il y a de la politique qui s'installe.
Mm-hmm.
C'est des choses que t'as pas avec une équipe de 10 à 20. Une équipe de 10 à 20, tout le monde se connaît. Si quelqu'un commence à manigancer pour que machin chose ait pas cette responsabilité-là pour des raisons de popularité, tu sais, tu peux pas être un maniganceur en douce, puis t'as pas besoin d'organiser un meeting en prévision d'un autre meeting. T'sais, si t'es 10, là, tu te lèves puis t'es comme, hey, toi, on peut-tu parler maintenant? C'est à ça que ça ressemblait quand j'ai commencé en 2000 sur un jeu PS2 où il y a peut-être 30 personnes dans l'équipe. Puis je me rendais compte, à mesure que je travaillais sur des équipes de plus en plus grosses, j'étais de moins en moins heureux.
OK.
Donc, un jour, pour moi, c'était logique de juste dire, je vais essayer le jeu mobile. C'est des petites équipes. Puis je pense aussi, vu que les budgets sont... incroyablement plus petit, ça veut dire que tu travailles pour des studios qui sont plus ouverts au risque. Tu peux essayer des choses autres qu'un 50e open world avec des AK-47 dedans.
Effectivement. Bon, le premier segment tire presque à sa fin. On se rappellera, Marc-André, le titre de l'émission, c'est quand même Poutine à deux. Ça sous-entend que tu as une sélection de poutine à faire. Donc, parle-moi de ton choix actuellement. Quel est le rationnel derrière ton choix?
Effectivement, j'ai mis de la réflexion,
mm-hmm.
parce que j'essaye de combattre un fléau qui touche les gens de mon âge, qui est la bédaine. J'étais tenté par une bonne grosse poutine au canard, mm-hmm. mais j'ai remarqué qu'il y avait un combo, une plus petite poutine avec une salade, qui était offert au menu. Puis, fait que dans ce combo-là, c'est porc effiloché. C'est pas un... On va dire... C'est un bon numéro 2 après le canard.
Ouais.
Fait que c'est ça que je m'apprête à commander.
Très bien. Sinon, de mon côté, histoire de représenter notre merveilleuse ville, je vais y aller avec la Montréal. Donc, encore une fois, du porc effiloché. Donc, d'une certaine manière, je te calque. Et ouais, c'est ça. Porc effiloché, sauce barbecue, assez simple, assez efficace. Souvent, je prends des poutines très viandeuses, mais ce soir, bon, on va être un petit peu plus calme. Je vais essayer de ne pas t'intimider. T'es quand même dans la salade, donc on va essayer de balancer.
Merci pour ta considération.
Très bien. Sur ça, on va commander. Donc, nous voilà déjà en segment post-injection de poutine dans le corps humain. Marc-André, tes commentaires sur la poutine?
Je pense que j'ai doublé de poids.
OK.
C'était délicieux.
Mm-hmm.
Et je le regretterai longtemps.
Très bien. Chers auditeurs, chères auditrices, prenez compte du sacrifice que Marc-André a fait pour vous. Prenez compte.
Je me fais plaisir. pour me faire mal pour vous.
Bon, si les gens pleurent pas, on va continuer, on va parler de jeux vidéo. Est-ce que ça t'arrange?
Oui, ça va aller.
Ça va dissiper la pensée à propos de la poutine. Une affaire qu'on a relevée, bien évidemment, c'est que t'aimes les jeux systémiques. Ça vient, bon, des influences que t'as eues dans ta tendre enfance. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les jeux systémiques qui a été cherché et qui t'amène à amener ça comme un trait dominant de ta carrière ensuite?
Il y a un moment précis dans ces jeux-là qui est souvent, je dirais, mon point de départ quand je dois concevoir une nouvelle mécanique de jeu. C'est le moment où tu dois décider c'est quoi la prochaine chose que tu vas faire.
OK.
Dans GTA, tu as un choix de quête, tu peux décider d'aller faire des cascades. Dans un RPG, tu as des choix, même chose, tu peux avoir plein de quêtes en parallèle, puis tu décides c'est quoi le prochain objectif sur lequel tu t'attardes. Dans City Skylines, est-ce que tu agrandis ce quartier-ci ou est-ce que tu fais une nouvelle ligne de métro? Il y a des moments que j'adore où est-ce que tu t'arrêtes puis tu penses c'est quoi le prochain défi que je choisis pour moi? Et souvent, quand je travaille, c'est la question numéro un que je me pose. C'est le joueur qui est face à une nouvelle mécanique de jeu, c'est quoi le moment où il prend une décision en disant hey, « j'espère que ça va bien se passer
mm-hmm. »
Puis après ça, t'es lancé, tu vois. Même, je dirais, tellement que j'ai même exagéré. Des fois, ça m'est arrivé de travailler sur des projets où je m'obstinais à donner des choix. Quand, surtout dans le jeu mobile, des fois, le joueur a peut-être juste envie que tu lui dises quoi faire et de ne pas avoir à se casser la tête. Je vais donner un exemple. J'ai travaillé sur un jeu de stratégie, de puzzle tactics, genre. Et j'ai vraiment insisté pour que dans le jeu, il y ait un côté... risque versus récompense. Tu choisis ton prochain combat. Celui-là a l'air difficile, mais le trésor à la clé est tellement intéressant. Et puis là, à côté, tu regardes Clash Royale, que tu dis, je veux me battre. Il trouve un adversaire. Et tu sais quoi? Personne n'en est plein.
Mm-hmm.
Donc, des fois, on a tous des billets. Et puis, dans mon cheminement personnel, j'ai commencé à identifier les miens.
C'est très bien. Justement, pour toi, qu'est-ce qui constitue un bon choix dans le contexte d'un jeu ouvert ou d'un jeu systémique?
Il y a un gros côté risque-récompense pour moi qui joue. On va prendre un exemple. World of Warcraft.
Mm-hmm.
Tu peux décider de faire une quête qui va être super difficile. Par contre, quand tu vas la réussir, va peut-être te donner, je sais pas, une armure qui va... Après ça, qui va te permettre de massacrer un paquet d'adversaires qui sont actuellement difficiles. T'as le plaisir, tu sais, quand tu penses à la récompense, puis tu dis, tu sais, je vais être tellement badass avec ça, là. Je la veux, l'armure de feu. Puis là, évidemment, tu meurs 14 fois en essayant de finir ta quête, là, puis tu passes toute la nuit dessus. Mais c'est ça, c'est... Tu vis avec ta décision, puis... Pour moi, c'est un moment important. Je suis conscient que c'est pas obligatoire dans chaque jeu.
Mm-hmm.
Mais je pense que c'est le moment clé qui fait que moi, je reste accroché à un jeu. C'est, je choisis dans quoi je me lance. Et puis, après ça, il y a la curiosité de découvrir qu'est-ce que ça va donner.
Mm. Sinon, si maintenant, on va prendre l'exemple. Tu as eu la chance de travailler sur Far Cry, mais je crois que c'était plus en capacité de concepteur de niveau. Mais bon, sûrement, tu as entendu les raisonnements qui sont passés dans le contexte de ce jeu-là. C'est un jeu avec beaucoup de systèmes. Personnellement, en tant que concepteur de jeu, des fois, ça m'épate à quel point qu'il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble, mais finalement, tout est coordonné comme quasiment une montre pour bien fonctionner ensemble. Comment qu'on procède pour créer ça? Est-ce qu'on y va un système à la fois, puis ensuite on regarde l'ensemble, on ajuste le tir? Est-ce qu'on pense à l'ensemble tout de suite? Comment qu'on coordonne ça?
C'est intéressant comme question, surtout que si je remonte à mon tout premier projet Far Cry, qui est Far Cry 2,
mm-hmm.
à l'époque, Ubisoft n'avait pas encore réussi à sortir un jeu avec un monde ouvert.
OK, Assassin est en développement.
Assassin n'était pas encore sorti. Okay. Il y avait eu d'autres projets qui avaient été tentés puis qui avaient échoué, qui n'ont jamais vu le jour. Et c'était le plus gros défi, peut-être, du projet Far Cry 2 pendant une période de temps, c'était est-ce qu'on va réussir à le faire cette année monde ouvert qu'on veut accomplir? Et il y a eu beaucoup de gens qui... On va dire, beaucoup de gros noms de l'industrie qui étaient soit déjà des gros noms ou qui le sont devenus depuis, s'y sont cassés les dents.
OK.
À l'époque, j'avais pas une réputation particulièrement viable, mais je jouais à énormément de jeux monde ouvert. Puis j'étais souvent, tu sais, genre, mon supérieur me posait des questions. Ah, quand tu joues à GTA, quand tu joues à, je sais plus, Oblivion, bon, tu sais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu remarques? Puis à un moment donné, c'était comme, ah, est-ce que tu veux essayer de faire la géographie du monde? Parce qu'à date, on y arrive pas. Puis, je m'y suis attelé. Mais la différence, c'est que personnellement, j'avais pas un nom à défendre. Puis, je pense que je suis pas carriériste comme... On va dire que j'ai peut-être une façon différente d'exprimer mes ambitions. Mon approche était complètement axée sur la résolution de problèmes. C'est qu'est-ce qui va pas bien, puis comment est-ce qu'on peut aménager le monde pour que ça aille bien. Il y avait des contraintes techniques hyper exigeantes. L'engin n'était pas entièrement approprié. Donc, des fois, il fallait faire des choix difficiles. Mais la différence entre d'autres qui se sont essayés et moi-même, c'était que moi, je me suis dit, la vision émergera de ce qui marche. Versus... des gens qui étaient comme, moi, j'ai mon idée du monde idéal, puis c'est ça que je veux absolument réussir à faire. Et à tout coup, il y avait des problèmes techniques. Des exigences venaient avec des architectures. La technologie n'était juste pas capable de le faire. Et c'est, ce qui était intéressant, c'est que même quand on crée sur le côté technique d'une géographie de jeu, il faut penser à ce que ça va donner sur le plan interactif. C'est-à-dire, souvent, on désigne le monde à vue d'oiseau, mais il ne faut pas oublier que le joueur il est au sol. Et juste où est-ce qu'on va placer une colline ou un pic rocheux ou un arbre plus gros que les autres, va faire en sorte, des fois, qu'un joueur décide de prendre un détour pour aller voir. C'est quoi qu'il y a à la base de cet arbre géant? Et c'est un processus évolutif. Nous, ça avait vraiment été un peu comme une toile blanche. Okay. Ça veut dire, on a bâti le monde qu'on croyait crédible, qui était, on va dire, le plus ouvert, celui qui donnait le plus de liberté possible en fonction des limitations techniques. En se disant, on avait des stratégies pour, on va dire, rendre certains passages plus étroits ou plus larges en fonction de l'évolution des mécaniques de jeu. Si on trouve plein de choses à rajouter dans le monde, ben, y a des zones qui peuvent s'élargir. Puis inversement, si on commence à couper des features, il y a des zones qu'on peut rétrécir, qu'on peut remplacer par des gros rochers infranchissables.
Mm-hmm.
Ça, c'est vrai pour, je pense, tous les projets ambitieux. C'est, peu importe c'est quoi ton design initial, c'est même ton dessin dans le sens de la finalité que tu vises, cet objectif-là, il doit évoluer en fonction de comment le projet avance.
T'en avais déjà discuté, ça a l'air un peu ringard dit de même, mais je crois qu'il faut que tu écoutes le jeu que tu es en train de développer d'une certaine manière. Est-ce que ça pourrait être une bonne manière d'expliquer l'approche?
Oui, bien là, je pense que ça me tend une perche parce que occasionnellement, je sors une phrase de gourou là, au travail. Puis il y en a une qui m'arrive, ça m'arrive de la sortir. Des fois, c'est faut que tu laisses le jeu te dire comment il veut être designé.
Ouais.
Fait qu'occasionnellement, en fonction de ce qui marche déjà dans le jeu, du public cible, de plein de facteurs, il y a des solutions qui, on dirait, veulent te sauter aux yeux. Puis il faut être réceptif à ça en tant que designer parce que, ultimement, si on réalise pas l'idée que tu croyais géniale, mais qu'on en réalise une qui est bonne, les joueurs, ils savent pas qu'ils sont en train de rater ton idée géniale en jouant. Ils voient juste la bonne, puis ils sont comme, hey, c'est bon ça.
Mm-hmm.
Fait que c'est. Faut pas oublier ça. C'est toujours difficile. Il y a personne de parfait, mais faut. Je pense que les meilleurs designers sont, d'une certaine façon, ceux qui mettent le moins de leurs idées personnelles dans le jeu, le moins de leur ego.
Mm-hmm. Absolument. Puis souvent, c'est un parallèle que je fais. L'impression, c'est mon impression personnelle, puis bon, ma théorie est prouvée jusqu'à date. Souvent, les meilleurs designers avec qui j'ai travaillé, c'est presque du monde qui ont une approche beaucoup plus proche du design de produit, c'est-à-dire j'ai un problème à résoudre. Exemple, je sais pas, c'est compliqué de couper des oignons. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle manière de couper des oignons? De cette manière-là, tu fais un couteau adapté à la situation. À mon avis, le jeu vidéo, c'est un peu pareil aussi. Tu sais, oui, certes, on cherche à divertir les gens, mais après ça, dire, bon, t'as une commande d'Ubisoft, dire, on fait un jeu open space avec la licence Far Cry, voici le problème, voici comment le régler. Ça marche beaucoup plus que, comme tu l'as dit, ah, j'ai une grande vision, ben, j'ai écouté un film récemment, puis ça m'a inspiré.
Oui, puis, tu sais, c'est facile de tomber en amour avec ces idées.
Mm-hmm.
Parce qu'on voit quelque chose dans notre tête, puis c'est tellement hot. Mais. Je me souviens, si on revient encore à Far Cry 2, en préparation de ma mission qui était la plus grosse mission que j'avais eue dans ma carrière à l'époque, je m'étais tapé le livre The Art of Innovation par, j'oublie son nom, mais fondateur de IDEO.
Oui, absolument.
Et puis là, j'essayais de voir c'est quoi leur processus. Puis en fait, il y a plusieurs étapes dans le processus. Il n'y a aucune étape qui s'appelle... on design ou on crée ou on décide ou on se prononce. Les étapes, c'est on identifie le problème, on comprend le problème, on essaye une variété de solutions et puis on garde celles qui fonctionnent. Éventuellement, à force de répéter ce processus-là, tu devrais arriver à un design qui fonctionne. Puis ça avait informé beaucoup mon approche dans Far Cry 2, qui était, on va identifier tous les problèmes qu'il peut y avoir avec notre technologie ou avec les mondes ouverts en général. On va identifier les opportunités qu'on veut saisir. Puis là où c'est pas mutuellement exclusif, c'est là qu'il faut foncer. Puis en quelques semaines, c'est pas fait du jour au lendemain, mm-hmm. en quelques semaines, avec énormément de rencontres pour être sûr que tous les acteurs importants du projet puissent se prononcer, on a bâti un monde qu'on a bâti par le prototypage, d'ailleurs. Le gros avantage qu'on avait, c'est que la technologie nous permettait déjà d'essayer une grosse partie des idées qu'on avait puis de les valider techniquement.
Mm-hmm. Très bien. Sinon, c'est bien beau l'expérimentation, c'est bien beau le prototypage, mais bon, du haut de mon expérience de jeu vidéo, des fois, d'avoir cette approche-là, c'est peut-être pas l'approche préférée des producteurs. Les producteurs aimeraient mieux que t'aies une vision, t'écrives un document à propos d'elle, puis que ça fonctionne ensuite. Comment tu fais accepter ça à des gens qui sont plus en management?
Faut comprendre pourquoi on design.
Mm-hmm.
Si t'es un designer sur un projet qui a seulement quelques mois pour sortir quelque chose parce que le temps presse, je sais pas, faut que ça sorte en même temps qu'un film, par mm-hmm. exemple.
Clin d'œil.
Là, faut choisir tes combats. C'est pas le temps d'essayer des idées créatives. C'est tentant. Et puis, on est tous super confiants par rapport à nos propres idées les plus innovatrices. Mais... Toute nouvelle chose est nécessairement une expérience et elle pourrait bien aller, mal aller. Généralement, elle tombe toujours dans la zone grise. La zone grise où tu dis « Ah, ça pourrait très bien fonctionner, mais ça va être beaucoup de travail, mais est-ce que ça vaut la peine?
Mm-hmm. »
La réalité, c'est que si c'est un échéancier agressif, t'es mieux de t'en tenir à des mécaniques qui sont éprouvées. Tu sais, genre, tu gagnes tes XP, tu level up, puis quand tu level up, je sais pas, tu unlock des nouvelles skills. Puis... si tu veux vraiment que ce soit sans risque, tu décides pour le joueur c'est quoi la skill qui unlock. Toutes les mécaniques peuvent... Tu peux bâtir un jeu super le fun qui va paraître original à partir de mécaniques qui sont déjà existantes dans d'autres jeux. Ou souvent même, tu peux dire on va copier un jeu précis, mais on se donne un 15% de marge de manœuvre pour y ajouter notre touche personnelle.
Mm-hmm.
Trop souvent, on est trop perfectionniste au niveau créatif. Comme si tu discutes avec un producteur et que tu t'entends pas sur, on va dire, l'ambition créative d'un projet, ça veut probablement dire qu'on n'a pas eu la discussion sur vraiment c'est quoi la mission à accomplir. Personnellement, j'ai travaillé sur des projets où, surtout si je sens que je travaille avec des gens qui sont peut-être un peu plus impulsifs, ça m'arrive de dire, OK, avant de commencer à designer des mécaniques, des contenus, une histoire, bon, les 3C, tout ça, avant tout ça, on va s'entendre, on va juste remplir un petit document d'une page et demie qui décrit la mission puis les enjeux du projet. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'on pense qui est, on va dire, les avenues les plus porteuses? Et puis là, après ça, quand tu as une mésentente, tu peux retourner à ça. Tu sais, tu peux dire, hey, producteur, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as pas dit qu'il fallait que ça tourne sur console. Mais là, tu me dis que ça doit tourner sur console. T'es conscient que ça change la mission et que rétroactivement, ça va peut-être détruire une partie du design. Et ça marche dans les deux sens aussi. Toi, si t'es tombé en amour avec ton idée la plus récente, puis que t'as commencé à écrire une bible de design à propos de ça, puis que ça n'a rien à voir avec la mission, le producteur, il peut te la remettre d'en face.
Mm-hmm.
Mais mon expérience, c'est quand il y a mésentente, c'est presque tout le temps une mésentente sur les fins, pas sur les moyens. Puis s'il y a mésentente sur les fins, c'est peut-être juste qu'on n'a pas eu cette conversation-là.
Très bien. Là, Marc-André, je flaire qu'on va avoir une discussion potentiellement sur les processus. Je te propose de prendre une pause et ensuite de continuer là-dessus. Ça te va?
Volontiers.
Magnifique. Donc, nous voilà revenus avec Marc-André. Une demi-bière en plus dans le corps, ça va bien?
Oui, étrangement.
Oui, t'es en contrôle?
Je crois.
Quel bel exemple de contrôle de soi-même, mesdames et messieurs. Prenez note. Bon, comme j'ai sous-entendu tantôt, Marc-André, on commençait à parler de méthodologie de création, de production, et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué chez toi d'une manière positive, on va en convenir. C'est que tu as l'air vraiment passionné par les processus de création, de production. Souvent, quand on parle aux autres designers, ils parlent de mécanique, de balancing, des affaires de même, mais toi, les processus de création, ça a l'air t'intéresser. Ça vient d'où, ça, d'abord?
Je pense que ça vient de ma formation technologie de l'architecture. Parce que un accident sur un chantier, c'est grave.
J'ai entendu dire.
Puis, c'est une formation où pendant des années, tu développes une conscience hyper pointue de justement des processus que tu peux mettre en place pour t'assurer que, tu sais, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, tu sais, genre le toit s'effondre ou, tu sais, des choses. Quand un bâtiment va mal, c'est beaucoup plus tragique qu'un jeu qui crash.
Certaines personnes sur Twitch diraient le contraire, mais je t'en prie, continue.
OK. tant qu'ils vont pas me doxer. Fait que, il y a ça, puis... Je pense c'est intéressant. C'est comme si je m'intéressais au game design du game design. C'est méta, là. Mais il y a ça, tu sais, j'aime ça, comprendre comment les choses fonctionnent. Puis à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il y a un fonctionnement au processus créatif. Tu sais, il y a du monde qui shoot des idées. Il y a du monde qui sont meilleurs que d'autres pour shooter des idées. Mais il y a aussi des techniques de travail qu'on peut se donner pour aider les idées à sortir et pour devenir meilleur pour les évaluer. Tu remarqueras que j'ai pas dit sortir la bonne idée.
Mm-hmm.
Le processus il existe peut-être, mais si c'est le cas, moi, je le connais pas encore.
Okay.
Oui, je me suis toujours intéressé au processus créatif. Parce que j'ai envie aussi d'être capable de fournir un certain niveau de qualité avec régularité. Si tu t'en tiens juste à l'inspiration, il n'y a pas beaucoup de choses qui différencient ton travail d'une loterie.
Mm-hmm. Puis là, justement, dans ta boîte à outils de méthodologie ou d'outils, justement, pour générer de la créativité, qu'est-ce que tu as actuellement? Si tu trouverais le clapet, qu'est-ce qu'il y aurait dedans?
Ah, bonne question. Bien, premièrement, c'est ce que je disais avant la pause. C'est important de comprendre pourquoi on design. Si tu designes pour l'Auto-Québec, les critères ne sont pas les mêmes que si tu designes pour Mojang. Mm-hmm. La business détermine beaucoup les paramètres dans lesquels tu dois évoluer. Puis j'ai remarqué, c'est plus difficile avec les gens. Tu sais, que la première fois que tu as un métier créatif, là, c'est étourdissant, puis tu penses que tu vas t'exprimer beaucoup. En réalité, je pense que les lieux de travail n'ont pas encore développé une bonne habitude pour juste inculquer cette notion-là que, tu sais, ta créativité est au service d'une entreprise, d'un ensemble, d'une équipe, d'une brand, et non l'inverse.
Ceci étant dit, on a des écoles qui forment des créateurs. Crois-tu, au niveau de la formation, qu'il y a une sensibilisation à faire? Parce que oui, on a des stages ici et là. Par exemple, moi, j'avais fait une technique en multimédia. On avait fait des stages en entreprise. Et effectivement, c'est horrible à dire un peu de même, mais des fois, tes idéaux de création, il faut les mettre de côté pour faire un produit viable qui va fonctionner. Crois-tu qu'il y aurait un travail qui pourrait être fait du côté des écoles pour mieux préparer les gens avec ça? Parce que c'est pas une réalité qui est nouvelle. Là.
Je pense que les écoles qui enseignent game design... se concentre plus sur la partie game que sur la partie design. C'est-à-dire, les étudiants... Puis c'est vrai, ça reste vrai dans la formation que les entreprises offrent. C'est-à-dire, on apprend beaucoup sur les particularités du jeu, ce qui fait que certains jeux pognent, d'autres non, ce qui fait que certaines mécaniques vont générer une addiction... Voilà, il y a beaucoup de choses, tu sais, comment balancer les systèmes. Mais le design, c'est une discipline qui existe, tu sais, depuis un certain temps, puis qui a des pratiques. Puis je me suis rendu compte aussi, au cours de mes propres recherches, que c'est pas beaucoup enseigné, ça, ni à l'école, ni dans la formation que les entreprises offrent. Alors, on dit, on est obsédé par le jeu, on n'est pas obsédé par le design. J'allais revenir au départ que je disais, c'est dans la boîte à outils, là, tu m'as lancé. Hein. Ah. Je disais, il faut apprendre à choisir ses batailles intelligemment. En gros, c'est à ça que ça revient quand je parle beaucoup du contexte dans lequel tu designes. Faut comprendre le contexte, puis ça va déterminer si tu es capable de finalement tailler un habit sur mesure pour ce contexte-là. Au-delà de ça, une fois que tu sais pourquoi tu designes, une grosse partie pour moi du processus décisionnel, c'est le darwinisme des idées, on va dire. C'est-à-dire, plus tu sors d'idées, plus il y a de chances qu'il y en ait une dans l'eau qui soit vraiment géniale. Les gens ont tendance à s'arrêter à la première ou la deuxième. Puis pas juste ça, c'est que si tu es conscient que tu es dans un processus d'idéation pour sortir un maximum d'idées, pas pour sortir la bonne, tu peux aussi pratiquer pour devenir meilleur à les évaluer. C'est-à-dire, à chaque idée que tu sors, si tu l'évalues intelligemment, cette intelligence-là, elle va se transmettre aux idées supplémentaires. Fait que... trop souvent, les gens ont tendance à genre faire un brainstorm d'une heure, puis il faut décider c'est quoi le multijoueur pour toute la brand. Quand en réalité, tu peux étaler ça sur des semaines en disant, tu sais quoi, en même temps qu'on fait nos autres tâches, on commence à sortir des idées de multijoueurs, puis on travaille sur l'évaluation, puis éventuellement, ça devrait t'amener à un stade où t'as peut-être 15, 20 bonnes idées. Puis non seulement sont bonnes, mais toi, tu es devenu meilleur pour choisir laquelle est vraiment la meilleure. Et puis, considération pratico-pratique après ça, c'est des fois, tu choisis l'idée qui est peut-être pas la meilleure sur papier, mais qui est celle qui est la plus flexible. Parce que quand tu vas bâtir ton jeu, tu vas toujours... Surtout si tu fais quelque chose de nouveau. T'sais, si tu fais une saga map, là, je pense au niveau du concept, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Mais quand tu essayes les nouvelles mécaniques, il faut que tu t'attendes à ce que tu découvres des problèmes et des opportunités en cours de développement. Fait que si tu as un concept qui te permet de, tu sais quoi, hey, cette mécanique-là, finalement, elle va être un peu plus compétitive qu'on pensait, ou ça va être plus du long terme. Tu peux prendre ton idée qui était déjà bonne, qui était la meilleure du lot, puis la rendre encore meilleure. À la fin, c'est la meilleure idée, c'est celle qui va être la plus adaptée à la réalité de la business, des usagers. Puis je pense que toutes ces choses-là ensemble, là, ça vient, ça gravite autour de ce terme-là, d'être adapté.
Mm-hmm. Sinon, toi, justement, quand tu pitches des idées, bon, tu as plusieurs idées en parallèle. J'imagine, toi, ton côté en tant que créateur, tu as quand même tes référents pour évaluer si une idée est bonne ou non. Une fois que tu fais une première implémentation, comment tu évalues? Est-ce que normalement tu impliques d'autres personnes de l'équipe? Est-ce que tu fais des tests utilisateurs? Tu as différents outils, encore une fois, dans la dite boîte à outils?
Oui, alors les tests utilisateurs, un, c'est super important. Deux, j'en ai pas fait assez. Trois, parce qu'on n'a jamais le temps.
Mm-hmm. Ou les moyens, soit dit en passant.
Ou
aussi.
Les moyens. Oui,
c'est assez étonnant à quel point il faut vendre ça encore dans l'industrie de jeu. Là.
Oui, il y a beaucoup trop de monde encore aujourd'hui qui vont me dire « on n'a pas besoin de test utilisateur, moi je le vois si c'est bon ». Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que, en tant que créateur, en fait, tu es la pire personne pour évaluer quelque chose. Déjà, je dirais c'est probablement la raison pour laquelle les tutoriels sont encore aujourd'hui aussi généralement poches dans les jeux. C'est que la personne qui crée le tutoriel, ça fait 2 ans qu'elle travaille sur ce jeu-là. Elle est incapable de se projeter dans la tête de quelqu'un qui l'a jamais vu. Et le fait que tu as souvent des tutoriels qui sont designés en fonction d'une personne qui connaît chaque micro-détail du jeu. À la limite, je pense, dans un monde idéal, là, t'irais embaucher un nouveau designer juste pour faire un tutoriel. Tu sais, tu dis, regarde, découvre ce qu'on fait, là. Puis le design, le tutoriel, en fonction de tes premières impressions. Mm-hmm. Mais non, il n'y en a pas assez. Ça marche trop souvent au gut feeling. Je pense, encore là, dans la question de processus, si tu es intelligent dans ton organisation du travail, tu développes, on va dire, une intuition. Tu essaies d'entraîner ta propre intuition pour qu'elle soit comme au diapason avec celle des usagers. Fait que faute d'avoir des vrais usagers pour t'aider à évaluer, c'est peut-être la meilleure technique. Ça explique des succès. Tiens, Minecraft, c'en est un. On va dire les succès d'auteur s'expliquent souvent par le fait que le créateur est en même temps un utilisateur passionné, ou Stardew Valley, c'est un autre bel exemple. T'sais, c'est quelqu'un qui a joué un jeu à mort, puis qui dit, je pense que je serais capable de faire une version actualisée, puis qui se lance dedans, mais c'est plus facile d'évaluer un jeu quand tu corresponds toi-même au public cible. Maintenant, c'est une situation, c'est l'exception plutôt que la norme. Puis je pense qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça qui vaut une batterie de civils qui viennent t'aider à évaluer ta création.
Non, c'est ça. Puis pour être honnête, si on est chanceux à Montréal, quand même beaucoup de gens qui sont intéressés à travailler en jeu. Il y a beaucoup de gens qui aiment le jeu. Fait que normalement, faire du test utilisateur, c'est quand même plus facile.
Oui, notamment, il y a beaucoup d'étudiants qui vont être prêts à passer beaucoup de temps à essayer de te fournir le meilleur feedback de l'univers, parce qu'ils ont envie de trouver une job dans un jeu, puis là, tu sais, tu leur offres une chance de mettre un pied dans le studio.
Très cool. Bon, bien évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, donc de temps en temps, on tend la main vers nos auditrices, nos auditeurs, pour potentiellement avoir des questions, justement, auprès de nos invités. Puis on a des questions pour toi, Marc-André. D'abord, ta réaction face à ça.
Ben, écoute, je suis content que y ait des questions, parce que je le dis comme ça, ma conjointe est prof de littérature. Mes enfants sont pas particulièrement gamers. Fait que je suis content que quelqu'un me pose des questions sur mon travail.
On les salue d'ailleurs. Donc, on va y aller d'abord avec Chaton, petite barre en bas, et Elohim sur Twitter, d'ailleurs, un auditeur ou une auditrice très fidèle de Poutine à deux, des jeux sont faits, qui pose une question à propos de Far Cry 3, parce que j'ai entendu dire que tu as traîné sur cette production-là. Quelles ont été les influences de base de ce projet-là? On se rappelle quand même, troisième épisode de la série Far Cry, il devait avoir quand même ici et là des moments où on dit, bon, comment qu'on peut bidouiller la recette et qu'est-ce qui pourrait influencer la petite recette?
Bon, je pense que je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je vais essayer de faire un bon sommaire.
Oui, s'il te plaît.
C'était pas compliqué, la mission de base pour Far Cry 3. C'est Far Cry 2, c'est un jeu qui avait, on va dire, fait beaucoup de promesses, mais qui en avait pas réalisé tant que ça. Mm-hmm. C'était un jeu qui était particulièrement punitif. Fait que Far Cry 3, c'est pas compliqué. C'est, on va prendre tout ce qui est bon dans Far Cry 2, puis on va essayer de faire un Far Cry comme le plus fun possible. C'est exactement la même approche, d'une certaine façon, que le deuxième Assassin's Creed avait. Mm-hmm. C'est genre, ils ont comme rajouté une couche de GTA sur le premier Assassin's Creed, puis là, d'un coup, ils avaient une formule vraiment gagnante. Far Cry 3, c'était pareil au début. Maintenant, c'est un projet qui a eu des problèmes parce que il y avait énormément de jeux vraiment révolutionnaires qui sortaient à l'époque où Far Cry 3 était en début de développement, puis ça influençait beaucoup la vision des gens. Tu sais, que ce soit les jeux avec Nathan Drake, après ça, à un moment donné, Fallout 3 est sorti, Red Dead Redemption. Pis c'est tous des jeux qui peuvent potentiellement influencer la vision. Puis en fait, je pense que ça a empêché l'équipe d'avoir une direction claire. Mais ultimement, ils ont retrouvé leur mission de base. Puis, tu sais, il y a eu quelques changements de personnel qui ont fait que, à la fin, après un certain temps, la vision est revenue à c'est un jeu monde ouvert, tu peux conduire, tu peux shooter, tu peux faire du stealth. Puis, l'histoire, elle va t'amener à faire ça. Pis ça va être excitant. Puis, on se casse pas la tête. On n'essaie pas de réinventer les roues qui n'ont pas besoin d'être réinventées. Le monde est le fun, il est grand. Puis l'histoire aussi était... Ça, faut le donner, c'était Pat Lourde qui est arrivé sur le projet, que lui, il s'est dit, les gamers sont jeunes, on va faire une histoire avec des jeunes dedans, ça va être jeune, ça va être excitant, il va y avoir de l'énergie, parce que c'est facile quand tu travailles depuis des années sur un projet de t'enfler la tête puis de vouloir faire quelque chose de plus profond que ce que le public demande.
Sans être offensant, Far Cry 2, c'était bon. Heart of Darkness, adaptation, je sais plus laquelle. Donc, c'est ça, on était très lourd, tandis que là, tu dis ça, Far Cry 3, on est sur une île tropicale, c'est plus léger, c'est des jeunes un peu douchebag, puis on a du plaisir.
Die Hard dans la jungle.
Oui, OK.
Puis le fait, en fait, ça, ce concept-là, très simple, a permis de se reconcentrer sur ce qui est le fun dans ce monde-là.
Très bien. Sinon, encore une fois, on avait une autre question de Chaton P. Elohim sur Twitter. On la salue encore. Sinon, bon, on se cachera pas, Far Cry, c'était le troisième épisode d'une série. C'était une licence très installée. En début de projet, comment tu choisis entre les piliers de la série versus les nouveautés qu'on doit injecter pour vraiment attirer les joueurs dans ce nouvel épisode-là? Comment tu fais le choix ou la balance entre les deux?
Ben Ubisoft, c'est une corporation gigantesque, donc au début, c'est beaucoup des discussions.
Okay.
La pré-production, ça sert aussi à valider nos super idées. Puis c'est un projet où il y a eu beaucoup de mécaniques qui ont changé de version souvent. Et à la fin, c'est souvent la recette la plus simple qui prévalait.
Okay.
Fait qu'il y a eu des... Il y a eu des essais ambitieux, même des petits excès. Mais c'est à la fin, c'était vraiment... tu gardes qu'est-ce qui fonctionne. Je pense que c'est ça qui a... C'est ce qui a fait que, je crois, Far Cry 3 a un petit peu remis Far Cry sur la carte avec un nouveau concept. Far Cry 2 aura été comme une étape de transition un peu boiteuse. Far Cry 3 a juste... Finalement, elle s'est contentée de réparer ce qui marchait pas dans Far Cry 2 en préservant ce qui marchait.
OK. très cool. Toujours sur Far Cry 3, étonnamment, c'est un jeu qui suscite les passions, Marc-André. On a une question, cette fois-ci, de Loug Grotin, encore une fois sur Twitter, qui fait la remarque. C'est très personnel, c'est très subjectif, mais selon lui ou selon elle, la deuxième moitié de Far Cry 3 est un peu moins tripante, un peu moins charmante. Selon toi, c'est pourquoi que c'est arrivé de même? Est-ce qu'on voulait faire un changement d'antagoniste et avoir un ton différent, ou il y a eu d'autres dynamiques du côté de la production qui emmenaient à ça?
Il y a une partie de ce que je vais répondre qui est plus fondée, mais l'autre moins.
Okay.
Parce que faut savoir, je suis parti d'Ubisoft avant la fin de Far Cry 3, donc je suis pas au courant de tout.
Mm-hmm.
Mais l'équipe de production qui bâtissait le monde déjà était divisée, si je me souviens bien, en 4 équipes.
Okay.
Chaque équipe était composée de level designer et d'artistes. Et chaque équipe avait une partie du monde à développer. Maintenant, tu regroupes des gens, je pense qu'il y a 10 personnes par équipe. C'est sûr, chaque équipe développe sa petite culture. Fait que, il est possible qu'il y ait eu juste une sorte de chaque équipe a développé une petite approche, peut-être légèrement différente des autres, mais qui a fait qu'il y a un clivage qui se remarque entre la première et la deuxième partie du monde.
Mm-hmm.
C'est différentes personnes faisaient différentes parties du jeu. Ça, c'est la partie avérée du problème. Mais je vais spéculer.
Oh là là!
Les journalistes jouent rarement à un jeu jusqu'à la fin.
Mm-hmm.
Fait que, mets-toi dans la peau du producteur dont le rôle est de maximiser les revenus que la vente de jeu va faire. Tu dis, on a un jeu qui est presque tout fini. On pourrait concentrer nos efforts sur la moitié du début, parce que c'est la moitié que les journalistes jouent. Ça va nous donner des super bons reviews. Puis ça, c'est pas Far Cry qui l'a inventé. Tous les studios font ça, parce que t'investis tes efforts là où ça va être le plus remarqué. Puis l'autre affaire aussi, c'est pas tous les joueurs. Même il y a des joueurs qui vont adorer ton jeu, mais qui vont pas le jouer jusqu'à la fin. Tu mesures tes efforts dans différentes parties du jeu. C'est la triste réalité de la plupart des jeux, les AAA qui prennent 34 heures à finir. T'sais. Fait que, d'après moi, j'étais pas là, j'ai pas assisté au meeting, mais je serais pas surpris qu'il y ait un petit peu de ça dans la formule magique qui a créé le clivage entre les deux moitiés de Far Cry 3.
Très bien, très bonne hypothèse. Sinon, Marc-André, pour finir de manière grandiose, tendu vers l'avenir, on va parler un peu de l'avenir justement. Bon, toi, ton côté, t'as commencé un nouveau studio à Montréal, j'en fais part, c'est excitant, c'est le fun. Qu'est-ce qui t'excite par rapport à l'avenir en tant que professionnel? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place, sans nécessairement révéler nos plans? Qu'est-ce que tu voudrais amener comme pratique justement pour faire, mettons, peut-être potentiellement un meilleur environnement de création de jeu?
Je crois que dans les habiletés que j'ai développées au fil des années, il y a celle de comprendre les contextes dans lesquels des designers peuvent mieux accomplir leur travail ou moins bien.
Mm-hmm.
Moins bien, c'est super facile. Tu as juste à changer de direction à tous les jours. C'est, voilà. j'espère pouvoir me concentrer sur un contexte dans le cadre de mes nouvelles fonctions. C'est développer le terreau fertile, pour mm-hmm. utiliser une belle image.
Oui.
Fait que bâtir l'environnement qui va permettre à des designers de vraiment, vraiment exprimer leur talent. Ça veut pas dire que ça se fait toujours dans le bonheur. T'sais, des fois, il faut... Comme je dis, on a tous des billets, puis une partie de mon rôle, c'est d'affronter les billets des gens qui travaillent dans l'équipe, y compris les miens. Et puis, d'ailleurs, j'espère que mes collègues pourraient corroborer ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup te parler de mes erreurs.
Oui, donc, c'est quelque chose qui m'a frappé chez toi. T'as mal un plaisir à parler d'à quel point t'as foiré sur certains points, des fois.
Oui, mais pour moi, c'est une fascination. Quand tu te rends compte que t'as fait une connerie, mais t'as un moment d'angoisse, mais tu as un moment de croissance. Tu sais, tu deviens quelqu'un de mieux. Mm. Puis, pour moi, je suis devenu comme presque accro à ça. Maintenant, j'ai pas au point où je vais faire des conneries intentionnellement. Tu vois.
Ça reste à voir, mais bon, je suis en train de continuer.
Non, tu sais, j'ai eu quelques postes où je faisais beaucoup d'embauches de personnel créatif. Puis, comme je disais, ça m'a permis de remarquer quels environnements permettent aux gens de croître, de s'accomplir, de former des équipes aussi plus cohésives. Et puis voilà, j'espère me mettre en pratique ça parce que, tu sais, on revenait au fait que j'aime beaucoup parler de processus créatif. Je pense que ça peut être un... je pense que ça me permettrait de valider beaucoup de choses. Parce que moi, je suis d'avis que... Tu sais, on parle beaucoup de studios comme Blizzard ou Nintendo ou Valve ou Supercell. Tu sais, les mégastars du monde du jeu vidéo. Mais quand tu regardes, quand tu apprends un peu sur ce qui se passe à l'intérieur des murs, tu te rends compte qu'il y a... Ils font des erreurs, eux, autant que n'importe quel autre. Blizzard, ils peuvent canner un jeu après 7 ans de développement. Supercell, ils ferment des jeux en soft launch à tout bout de champ. Ils ont fait, je sais pas combien de soft launch ratés avant de faire Clash Royale. Puis ils continuent à en faire depuis, d'ailleurs. Mais tu te rends compte que les studios qui livrent la qualité sont ceux qui ont l'air de bien vivre avec les erreurs. Et puis, moi, j'ai développé une espèce de théorie qui est finalement... le contexte compte pour 2/3 dans l'équation du rendement d'un designer. Le designer, c'est le dernier tiers. Le designer, il faut qu'il soit curieux d'esprit, ouvert, qui accepte les surprises, les apprentissages, qui a un ego humble. Mais après ça, à côté, il faut qu'il évolue dans un contexte où est-ce que... Tu sais, c'est pas compliqué. N'importe quel designer, là, si je lui dis « Hey, si tu travailles fort, mais que tu es prêt à travailler pour faire beaucoup d'expériences puis d'appliquer les apprentissages de ces expériences-là, ils vont arriver avec des bons designs. Ceux qui ne vont pas y arriver, c'est ceux avec qui tu ne veux pas travailler. C'est ceux qui sont comme « Non, ma première idée, c'était la bonne. Bon, » eux, tu sais, ouais, c'est pas les gens... C'est une question d'attitude, presque. Oui. Presque plus qu'une question d'habileté pure. Mais voilà. Moi, je me suis dit... Je vais travailler pour fournir le bon contexte. Puis après ça, les designers qui travaillent avec moi, ils ont juste 1/3 de la formule à fournir.
Et je le sens demain, Marc-André. Donc, un gros merci à toi. Bonne soirée. Bonne fin de bière.
Merci.
Et on se dit à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette discussion. Actuellement, pour être très honnête, mon bide le prend très mal. J'ai peut-être pris une bière de trop, mais nous allons procéder avec la conclusion, comme à l'habitude. Donc, si vous écoutez cet épisode sur le site web de Radio Kawa, je vous invite très fortement à vous abonner à Poutine à 2. C'est fantastique, nous avons 2 moyens de le faire. Donc, d'abord, si vous êtes de la vieille école et que vous êtes une personne très technique, nous avons bien évidemment un fil RSS. C'est très simple, allez sur la page de Poutine à 2, où est-ce que vous vous trouvez actuellement, et cliquez sur le lien fil RSS. Sinon, nous sommes bien évidemment présents sur Apple Podcasts, et c'est assez simple dans ce cas-là, cherchez Poutine à 2 et vous allez nous trouver très, très, très rapidement. Comme toute bonne propriété médiatique, Poutine à 2 est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux, donc cherchez Poutine à 2 sur Facebook ou sur Twitter, ou, histoire d'être encore une fois très technique et de rendre les choses plus simples, cherchez l'éducatif Poutine à 2 dans le même pain de mots, sans les accents, tout devrait bien se dérouler. Dans ce cas-là, bien évidemment, nous allons annoncer les nouveaux épisodes, mais comme vous avez pu le voir dans l'épisode de ce soir, nous avons beaucoup collaboré avec nos auditrices et nos auditeurs. Donc, bien évidemment, avant le prochain enregistrement, nous allons annoncer avec qui nous allons manger de la poutine. Donc, si certaines questions, certains commentaires vous montent à la tête, ça vous donne l'opportunité de les partager et qui sait, potentiellement améliorer la prochaine émission. Donc, encore une fois, cherchez Poutine à 2 dans le même pain de texte et vous allez nous trouver. Si vous avez aimé cet épisode de Poutine à deux, il y a une manière très simple de nous rendre la faveur. C'est tout simplement de laisser une note à Poutine à deux sur Apple Podcasts, soit une note en étoile, soit une note en étoile avec des commentaires. Assurez-vous, nous lisons tous les commentaires. Donc, si vous laissez du positif, nous allons être très heureux. Mais si vous laissez du négatif, on va évidemment le prendre en compte. Donc, laissez des notes sur Apple Podcasts, ça nous donne un grand coup de main. Donc oui, allons-y avec cette grande annonce. Je suis là ce soir pour vous dire que pour la première fois, Poutine à deux va faire un enregistrement en direct dans le contexte de l'événement Montréal Joue. Le tout va se dérouler le samedi 24 février 2018 à, étonnamment, Montréal. Le tout va se tenir en fait au cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal, au 200 rue Sherbrooke-Ouest. Pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, c'est le pavillon de l'UQAM qui est vraiment à proximité de la station Place des Arts. Si on veut être vraiment précis, de chez précis, le tout va se tenir dans la salle SH4800. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Bon, qui dit Poutine à deux dit très probablement discussion et Poutine. Donc, nous allons avoir un invité encore secret. Pour être très honnête, nous sommes en train de régler les derniers détails en ce qui concerne cet invité-là. Donc, dès qu'on a une confirmation finale béton, nous allons bien évidemment l'annoncer sur nos réseaux sociaux. Voici donc encore une fois une raison de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, auditrices, auditeurs du Québec et peut-être de la France, ça vous tente de faire une balade d'avion, vous êtes bien évidemment invités à cet enregistrement-là en direct. Mais bon, comme tout grand événement, comme toute grande publicité, je ne peux pas m'arrêter là, sinon ça serait de la folie, ça serait ne pas sauter sur l'opportunité. Et ma foi, ce n'est pas très nord-américain de faire ça. Donc, allons-y avec une deuxième annonce. Oui, je vous ai menti d'une certaine manière, il y a une deuxième annonce. Grégory puis moi, on va organiser un petit événement à la Bonne Franquette suite après cet enregistrement-là, dans les environs de 21h, 21h15. À titre de référence, juste pour le dire, l'enregistrement devrait durer une heure. Donc ensuite, Greg et moi, nous aimerions tout simplement vous rencontrer. Donc on avait pensé tout simplement faire un petit événement dans un bar à proximité. Le hic actuellement, c'est que nous ne sommes pas encore arrêtés sur le bar en question. Donc oui, nous allons avoir un événement public où est-ce que vous pourriez venir nous rencontrer. Mais on va tout simplement, encore une fois, via les réseaux sociaux, créer un événement, très probablement sur Facebook, et vous inviter à aller prendre un verre avec nous. Donc, ça va être une belle opportunité de peut-être émettre vos questions, vos commentaires dévastateurs à propos de l'émission. Et qui sait, peut-être, vous pourrez avoir une discussion d'une heure avec Grégory Vélassel à propos du Perrier. Pour moi, ça sonne comme un rêve. Histoire de conclure pour de vrai, allons-y avec les remerciements. Donc, tout d'abord, un grand merci à Marc-André Caron pour son temps, sa passion, son côté très touchant. Sinon, j'aimerais encore une fois remercier Grégory Bellassel qui m'a aidé un peu sur cette entrevue. Bien évidemment, j'aimerais aussi remercier Benji Pesque pour l'identité sonore de Poutine à deux et notre ami Julien Brault pour l'identité visuelle. Et allons-y, soyons un peu ringards. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs. On en reçoit beaucoup de retours. On a vraiment des bons chiffres de téléchargement. Je suis toujours impressionné. Sinon, j'espère que vous passez un très bon moment à nous écouter parce que, pour être honnête, on a beaucoup de plaisir à faire ces épisodes-là. Le prochain épisode de Poutine à deux va être, très étrangement, je regardais mon calendrier tantôt et j'étais un peu confus, sera le 14 mars prochain. L'invité est encore à confirmer, donc encore une fois, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez avoir un aperçu de cet épisode-là. Mais dans l'éventualité où que vous auriez envie d'entendre encore une fois ma douce et révérile voix, ou peut-être celle de Grégory Bellassel, ou peut-être encore une fois celle de Catherine Smith-Desbiens, notre première invitée de Poutine à deux, vous pouvez aussi vous abonner à Les Jeux sont faits. Les Jeux sont faits, c'est assez simple. C'est une émission d'actualité de jeux vidéo, mais cette fois-ci avec un regard de développeur. Donc, si vous aimez déjà les perspectives nouvelles que nous amenons à Poutine à deux, vous allez très probablement aimer Les Jeux sont faits. Et qu'est-ce qui arrive avec Les Jeux sont faits? C'est très intéressant. Il y a des épisodes qui sortent beaucoup plus fréquemment, dont, par exemple, la semaine prochaine, où est-ce que nous allons avoir une discussion à propos des périphériques de jeux, qui est, je dois l'avouer, influencé par l'annonce de la Nintendo Labo. Je termine en vous laissant avec de fantastiques bandes-annonces des autres émissions de Radio Kawa. Donc, on se dit à la prochaine et au revoir! Thank you.
Toutes les deux semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo,
c'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est La Cartouche sur Radio Kawa.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.